Mais Cathy saura que nous sommes sortis pendant la nuit. »
Ezra lui plaqua une main sur la bouche et ils se baissèrent tous ensemble. En bas de l'escalier, l'ombre s'était immobilisée et, du peu qu'il pouvait en distinguer dans le noir complet, elle semblait s'être retournée. Betty pouvait presque sentir le regard ardent de la servante barbadienne sur son crâne. Lorsqu'ils entendirent le craquement du plancher sous les pas de Tituba, ils se relevèrent et descendirent à leur tour prudemment. Au moment où ils passèrent la porte d'entrée, Tituba était déjà loin sur le chemin. Ils s'aventurèrent à sa suite et mirent quelques instants à se rendre compte que la pluie ne tombait plus. Elle s'était arrêtée instantanément. Ils s'attendaient presque à voir les gouttes figées dans l'espace et le temps.
« Tu crois que... »
commença Ezra.
« Ça ne peut être qu'elle !»
le coupa Betty.
« Mais où va-t-elle ? » ?»« Elle se dirige vers la forêt de Belvac, »
annonça Abigail.
« Exactement comme l'autre nuit. »« Alors suivons-la !»
s'exclama Ezra.
« Hardi compagnon, sue à la sorcière !»« Ezra !»
souffla Betty, exaspérée.
« Parle un peu moins fort ! En plus, on ne part pas à l'aventure !» Personnellement, je ne suis pas rassurée, et on ne sait pas si Tituba est une sorcière. Ah non !
Lâcha Ezra, plein d'ironie.
Alors comment appelles-tu quelqu'un qui arrête la pluie ?
Et il s'élança à la poursuite de Tituba, suivi de près par Abigail. Stupéfiée, Betty leur emboîta le pas quelques secondes plus tard. Il faisait un noir de suie, et la terre spongieuse s'enfonçait sous leurs pas, et collés à leurs semelles dans un atroce bruit de succion. Les chevilles nues, malgré leurs caleçons de flanelle, les jeunes filles sentaient poindre sur leur peau l'humidité ambiante des gouttes de pluie qui parsemaient le champ. Pas un bruit ne retentissait dans les horizons. Nul animal nocturne ne s'était aventuré au sein de ces ténèbres. Un léger vent vrombissait dans les branches lointaines et le chuintement qui en résultait était si macabre qu'il semblait aux trois jeunes qu'un corps se balançait au bout d'une potence. La silhouette de Tituba disparaissait, puis réapparaissait plus loin. Elle semblait entourée de nuages noirs, d'épaisses volutes de fumée qui l'enlaçaient, la camouflaient, puis s'éloignaient d'elle au moindre souffle. À l'approche de la forêt de Belvac, Ezra, Betty et Abigail frissonnèrent de concert. Les hauts arbres noirs n'avaient plus rien de rassurant. Les belles couleurs mordorées de la journée avaient laissé place à une ambiance sinistre. Les branches les plus longues, celles qui surplombaient la sylve, s'agitaient comme d'immenses bras crochus aux intentions malveillantes. Ezra n'en menait pas large non plus, mais face aux deux filles, il se devait de paraître rassuré, voire méprisant devant ses peurs féminines. Cela ne l'empêchait pourtant pas de trembler. Il marchait en silence, regardant tout autour d'eux, sans reconnaître le paysage. Arrivé devant l'orée de la forêt de Belvac, cette bouche obscure, ce gouffre qui paraissait infini, ils s'arrêtèrent. Abigail et Betty s'étaient accrochées l'une à l'autre.
« Ce serait idiot de rebrousser chemin maintenant, n'est-ce pas ?»
demanda Abigail d'une voix mal assurée. Ils approuvèrent, et Ezra, ouvrant la marche, tous trois pénétrèrent dans la forêt. Il ne leur fut pas difficile de suivre la trace de Tituba. Ses pas s'étaient imprimés dans le sol fangeux, et la lune, qui venait de se lever, se reflétait dans les petites flaques qu'avaient creusées ses pieds. Cette piste argentée n'avait rien de naturel, mais ils la suivirent quand même, car elle les mènerait à Tituba. Et même s'ils ignoraient à quoi s'attendre, cela les rassurait. Les deux filles fermaient la marche, et Betty avançait à reculons, guidée par Abigail, pour vérifier que rien d'étrange n'allait bloquer le chemin du retour, car elle comptait bien retrouver son lit dès que le mystère Tituba aurait été éclairci. Ils débouchèrent dans une clairière et se cachèrent immédiatement derrière un épais tronc d'arbre. Tituba était là, seule, assise à même le sol, près d'un grand feu de bois en plein centre de la trouée. Il ne la voyait que de dos et Ezra se déplaça le plus silencieusement possible pour voir son visage. Il se figea lorsqu'une brindille morte craqua sous son poids. Mais Tituba sembla ne pas l'entendre. L'apercevant désormais de profil, il tressaillit. Tituba avait les yeux grands ouverts, mais le blanc livide qu'il voyait n'avait rien d'humain. Ni pupille, ni iris dans les orbites de l'esclave. Ses paupières ne clignaient pas, et Ezra ne pouvait détacher son regard de cette vision cadavérique. Tituba ne semblait plus vivante, et sans ses larges mains calleuses qui tremblaient, le jeune homme aurait juré qu'elle était morte. Il se retourna brusquement lorsqu'il entendit une des deux filles pousser un cri étouffé et se pressa de les rejoindre. Il les découvrit, la main plaquée sur la bouche, les yeux fixés sur quelque chose qu'il ne distinguait pas encore. S'approchant doucement, il sursauta devant le spectacle qui s'offrait à ses yeux.